À tous en ce lieu où le Seigneur nous a déjà précédé et il est là parmi nous. Amen. Que son esprit puisse nous garder, nous conduire cet après-midi dans cette réflexion et ce titre ô combien important, pardonne-leur. Donc nous avons lu ces deux versets dans Matthieu 6. La responsabilité est clairement établie. Si on pardonne aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera. Mais si on fait le contraire, si on ne pardonne pas, le Seigneur ne peut pas nous pardonner non plus. Cela va à l'encontre de sa volonté et de son plan de salut pour ses enfants. Juste avant, dans l'enseignement sur la prière, il y avait ce verset 12, pardonne-nous nos offenses. Pardonne mes offenses, Seigneur. Comme moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mes offenses, mes torts, quelles sont mes offenses et quels sont mes torts? Jésus m'enseigne à ne pas faire de tort aux autres, à demander pardon, mais à pardonner, à reconnaître que même si je ne vis pas pour les autres, ni au travers d'eux, je vis avec eux dans le respect mutuel, dans le respect de son enseignement. Cette phrase est construite comme la réponse à une condition. Puisque Dieu pardonne, pas oublier, c'est que Dieu a pardonné en premier. C'est pas l'homme qui a pardonné. Dieu a pardonné en premier. Je dois aussi pardonner, puisque je suis à l'image de Dieu. Oui, mais on peut se dire, oui, mais pour Dieu, c'est facile de pardonner, c'est Dieu. Nous, on n'est pas Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'aime pas le péché sous toutes ses formes. Il est dit que celui qui pêche est l'ennemi de Dieu et ira en enfer s'il ne se repent de ses péchés et demande pardon. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, celui qui vient à lui pour se repentir. Et Dieu, dans son infini amour, le pardonnera. Alors, nous allons détailler plusieurs chapitres. Pourquoi pardonner ? Combien de fois pardonner ? Ne pas savoir pardonner ? Abandonner mon amertume ? Comment savoir que j'ai pardonné ? Et comme tu le disais dans ta prière, me pardonner. Pourquoi pardonner ? Éphésiens chapitre 4, verset 32, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. On retrouve l'essence dans ces différents versets de ce que le Seigneur attend de nous. Un pardon réciproque comme lui-même a su le faire. La Bible dit « Soyez bons, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné ». Écoutez ce qu'en dit Christine Armstrong, elle dit ceci. Après avoir pardonné, vous entrez dans un processus. C'est un effort conjugué de Dieu et de vous-même. On n'oublie pas tout de manière instantanée. C'est pas un reset, hein, comme on fait sur les ordinateurs ou les pièces électroniques. On n'oublie pas tout de manière instantanée, même si la délivrance est parfois immédiate, il peut y rester de l'amertume. Et c'est ça que nous allons nettoyer aujourd'hui. On va faire un gros reset sur le pardon. Renoncer à l'amertume, pourquoi ? Eh bien, afin de renouveler notre décision de pardonner, aussi longtemps que des pensées de vengeance traversent notre esprit. Renoncer à l'amertume afin de rester dans la paix, jusqu'à ce que la place libérée par l'amertume, les regrets et les désirs de vengeance soit entièrement prise par le Saint-Esprit. Savoir aussi abandonner d'anciennes relations nuisibles, ainsi que les personnes qui nous reparlent sans cesse de ces vieilles blessures. Ce n'est pas bon. Changer soi-même parmi les gens qui ne changent pas peut leur montrer la nécessité de changer eux-mêmes. Mais cela peut aussi leur faire peur. Ils peuvent vous regarder comme un extraterrestre. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Songez que tout comme le salut est une expérience immédiate suivie d'un processus de sanctification, le pardon est un acte immédiat, je te pardonne, qui doit être suivi d'un processus de guérison parce qu'il y a eu blessure. Renoncer à l'amertume afin de vivre une vie dégagée, nettoyée, aérée de tout ressentiment, de tout mauvais sentiment. C'est un choix, hein, toutes ces étapes-là sont des choix qui appellent une série d'autres. Mais chaque fois, le choix devient plus facile et nous éloigne de ce sentiment d'amertume. Paul a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Galates chapitre 5, verset 1er. Chaque fois que nous libérons quelqu'un, le pardon libère la personne. Quand Dieu me pardonne, il me libère du péché. Quand je pardonne à mon frère, à ma sœur, je lui rends sa liberté et moi, je me rends libre aussi. Comme quand le Seigneur efface notre péché sur, on va dire, sur son tableau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de trace. Combien de fois pardonner ? Bon, ben, vous connaissez, je pense et j'espère tous ces versets où, dans Luc chapitre 17, verset 4, « Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans une journée » Déjà, c'est pas mal, hein, 7 fois dans une journée, hein. Et que cette fois, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Même si on peut se dire « Oh, une fois, bon, 2 fois, 3 fois, non, c'est trop là. » On dit « Bon, allez, je ne veux plus te voir maintenant, hein, c'est bon, hein, c'est plus la peine de venir me voir. Hein, si c'est pour refaire la même chose. » Oui, je vous vois sourire, mais ça nous rappelle sûrement des expériences vécues. Jésus ira encore plus loin dans la réponse qu'il fera à Pierre. Pierre dit, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Ça le titille quand même de se dire, « Attends, déjà, il vient 7 fois dans la même journée. Hein. Pas 7 fois dans ma vie, dans la même journée. Donc, Seigneur, moi, j'aimerais quand même bien savoir au bout de combien de temps je m'arrête. » Le Seigneur va lui faire une réponse mathématique, hein, puisqu'il avait commencé par cela. Il dit, ben, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. Bon, pas besoin de calculatrice, hein, ça fait 490 fois. Ça commence à faire un sacré nombre de demandes de pardon et un sacré nombre de fois où il faut dire, je te pardonne. En effaçant le tableau, bien sûr. Hein. Vous savez, dans cette réponse, le Seigneur ne voulait pas dire « et il y a un compteur ». Il ne veut pas dire non plus qu'à 490 fois, il faut s'arrêter, qu'il n'y aura pas la 491e fois. Mais il veut dire que la question est ridicule. Autant de fois que Ton frère te demandera pardon autant de fois tu lui pardonneras. Moi, combien de fois ai-je demandé pardon à Dieu ? Combien de fois ? Très peu de fois ? Je le souhaite à tout le monde. Parfois un peu plus ? Chacun le sait. Alors imaginons si le Seigneur tenait un compteur, hein, ou un compte à rebours. Il s'est dit, oh, Jean-Michel, stop, fini, t'as épuisé ton crédit. Trop tard, t'as pas compris, maintenant c'est fini. Mais heureusement que le Seigneur n'agit pas comme ça. Vous imaginez ? Le Seigneur, à chaque fois, il remet mon compteur à zéro. Amen. Il remet mon compteur à zéro. Alors de quel droit ? Moi, je peux dire, si mon frère a péché et qu'il me demande pardon, je mets des conditions, je mettrai des conditions à la formulation de mon pardon. À la limite, mes lèvres peuvent formuler « je te pardonne », mais si ça ne vient pas du cœur, ça ne sert à rien. Autant garder sa langue dans sa bouche, plutôt que de se mentir à soi-même. On peut se dire, ah ben, ok, entre nous maintenant c'est fini, hein. C'est plus la peine de revenir, c'est bon, j'ai compris. Quoi ? Qu'est-ce que tu as compris ? Et si ton frère revient une deuxième, une troisième, et la 489e fois qu'il revient vers toi ? C'est pas un sport de demander pardon, hein. Ça coûte, c'est difficile. Alors imagine ton frère qui vient te voir un nombre incalculable de fois. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut se dire, il vient me demander pardon. Je me réjouis qu'il vienne me demander pardon. Parce que sinon moi, est-ce que je suis supérieur à mon frère ? Ou à ma sœur, hein, attention, il n'y a pas que les messieurs qui formulent des pardons. Hein. Est-ce que je serai supérieur à mon frère ou à ma sœur ? Vous savez, c'est l'histoire dans la Bible, il y a plein de petites histoires comme ça. Hein. Jésus aussi, hein. Il en a raconté des histoires, des illustrations, je vais dire, pour qu'on comprenne bien. Pas des histoires, hein, comme on dit, des histoires à dormir debout. Hein. Non, des illustrations. Il a dit, ah, tu connais l'histoire de la paille et de la poutre ? On va y revenir juste après. Autre chapitre, ne pas savoir pardonner. 1 Jean 4, 19, nous aimons parce que lui, le Seigneur, nous a aimé le premier. Il a montré l'exemple. Un auteur a écrit, si vous n'arrivez pas à pardonner, en voici peut-être les causes. Et on va voir différentes causes de ne pas savoir pardonner. Déjà, je dois renoncer aux blessures passées. Comme on disait, quand il y a péché, quand il y a demande de pardon, c'est qu'il y a eu une blessure. Et vous savez tous que quand on a une blessure, on se soigne pour pas que ça persiste, pour pas que ça s'envenime et que ça cause davantage de troubles. Donc il faut renoncer aux blessures du passé afin de saisir pleinement, librement, richement mon présent et embellir mon avenir. Sinon, je continue à traîner mon boulet. La colère empêche des émotions plus puissantes de s'exprimer. L'amour. Et quand cette colère cesse, peut-être j'ai peur que la vague de ces émotions me submerge. Ça peut me faire peur. L'amertume me saisit entièrement et je ne sais pas ce que je serais sans elle. Comme si c'était elle qui animait ma flamme, qui animait ma vie. Je vis, je tiens à cause de l'amertume qui est en moi. J'ai tellement pensé et repenser encore, et le jour, et la nuit, ressasser les circonstances de cette offense, que je les ai gravées dans mon cœur, au lieu de les effacer du tableau. Et peut-être l'idée de changer ma folle, ah mais si je pardonne, si j'oublie ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Alors que la colère, je la maîtrise, je sais qu'elle est là, elle est là. Et puis peut-être que l'offenseur n'a rien fait pour mériter le pardon. Eh, c'est grave. C'est grave ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas Dieu pour le pardonner. Hein. Encore une fois, peut-on se mettre à la place de Dieu et mettre nos conditions ? Et enfin, je suis maintenant persuadé que mon ressentiment me protège d'autres offenses. Tant que j'entretiens cette flamme-là, il n'y a pas d'autres offenses qui peuvent venir s'y ajouter. Alors sur tous ces différents points, vous avez compris qu'on se trompe complètement. Et là, on en revient à Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille, hein, qui est dans l'œil de ton voisin et de ton frère, de ta sœur? Et toi, ce n'est pas une paille que tu as, c'est une poutre. Donc autant dire qu'on est aveugle. On peut avoir une paille devant les yeux et quand même voir clair. Mais une poutre devant les yeux, on ne voit rien. On est aveuglé, c'est ça que ça veut dire. On s'aveugle soi-même. On a oublié de se regarder. L'auteur cité plus haut a ajouté, j'aime bien cette phrase, « J'ai tellement heurté la poutre de mon œil contre des murs que je suis devenu aveugle. » Eh ouais. Tant que j'avais cette poutre dans les yeux, je ne savais pas où j'allais. Donc j'ai tapé les murs et ça m'a rendu aveugle. Je ne voyais plus rien d'autre. Autre chapitre, « Abandonner mon amertume. » Voici quelques raisons d'abandonner mon amertume. D'abord, je renonce aux blessures passées. Elles sont passées. Je ne nourris donc plus d'amertume par rapport à ces blessures. Puis, puisque je ne nourris plus cette amertume, des pensées nouvelles prennent la place de cette amertume. Lorsque les chaînes de l'offense sont brisées, mon offenseur n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai brisé les chaînes. Je ne suis plus tenu par cela. Parce que l'amertume me fait croire que je contrôle la situation. Hein, le fait de repenser, de ressasser, de repasser tous les points, toutes les étapes. Mais en fait, c'est elle qui a le pouvoir sur moi. C'est mon amertume qui me tient. C'est la colère qui est en moi qui me tient. Et dès que je vais renoncer à ne plus être sur la défensive, je peux commencer à guérir. Je peux commencer à nouveau à aimer et je peux commencer à nouveau à être aimé. Est-ce que, facilement, quand vous voyez quelqu'un avec un visage en colère, vous allez systématiquement vers lui ? Non. Vous allez vers quelqu'un d'autre. C'est l'effet inverse de l'aimant, hein. Mais si quelqu'un vous sourit, vous regarde dans les yeux, vous allez être attiré par cette personne. Parce que le positif se dégage. Mais si vous avez les sourcils froncés comme ça, vous allez glisser légèrement sur le côté afin d'éviter on ne sait pas quoi. L'amertume crée un contentement provisoire. C'est une fausse illusion. C'est une fausse satisfaction, l'amertume. Tandis que la délivrance crée un sentiment de satisfaction durable. Se sentir libre. Cette bouffée d'oxygène qui remplit mes poumons. Dire, ah, les chaînes sont tombées, mon fardeau est tombé. Je suis libre. Je suis libéré. Enfin, comment savoir que j'ai pardonné ? Comment savoir que j'ai pardonné ? Comment savoir que j'ai complètement pardonné ? Quand le souvenir de l'offense n'est plus douloureux, quand ça ne fait plus mal, quand ça n'obsède plus. Et je peux même prier pour la réussite de l'autre en toute liberté et sincérité. Prier pour celui qui m'a blessé, qui m'a offensé. Et je me sens même à l'aise dans sa présence. Je suis capable de sympathie envers lui, le sourire et pas le visage fermé, et même capable d'empathie. Ce sont des nouveaux sentiments qui ont pris la place de l'amertume et de la colère. Et ceux-là sont bénéfiques. Et ces nouveaux sentiments me permettent de regarder l'autre d'une manière différente. Plus comme une offense, mais comme une délivrance, comme une guérison. J'ai été malade, je ne suis plus malade. De par nature, en général, je n'ai pas envie de pardonner. Mais je le fais quand même, non pas parce que je le désire, mais pour obéir à Dieu, parce que lui nous a enseigné qu'il nous a pardonné. C'est comme si j'allais voir ma sœur ou mon frère en disant « Je te pardonne déjà l'offense que tu pourrais me faire. » Est-ce qu'on a déjà fait cette démarche ? Lisa, je te pardonne déjà l'offense que tu pourrais avoir envers moi. J'anticipe. Donc, si jamais ça devait arriver, je t'ai déjà pardonné. Ça glisse. Dieu veut que je ne sois pas prisonnier de la colère et de l'amertume. Il veut me rendre libre. Il veut que je profite pleinement de ma vie. Jésus a prononcé sur la croix le début de cette phrase, qui est le titre de notre méditation d'aujourd'hui, « Pardonne-leur ». Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a pardonné les coupables, il a pardonné les responsables, il a pardonné aussi les irresponsables, ceux qui ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Il a pardonné les menteurs, il a pardonné les bourreaux, il a pardonné les participants à sa crucifixion. C'est comme Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 60, ils traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et il ajoute « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et il a ajouté que après ces paroles, il s'endormit. Et il y a une étape qui est aussi très importante et essentielle et indispensable en complément de ce que nous venons de voir, c'est il faut aussi savoir se pardonner. Peut-être on peut rester coupable de son péché. Je n'aurais pas dû pécher, mais j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur me pardonne si je vais vers lui sincèrement, mais je garde ce péché en moi. C'est moi qui garde ce péché en moi. C'est moi qui garde cette offense au fond de moi. Je n'ose plus regarder Dieu dans les yeux, si je puis dire. Je n'ose presque plus être sincère avec lui parce que j'ai péché. Parce que, est-ce que Seigneur, je peux encore m'approcher de toi ? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a plus rien d'écrit sur le tableau. Le Seigneur, il a oublié. Même après 490 fois. Hein. C'est une chose que nous oublions que nous négligeons et que nous omettons, c'est de savoir se pardonner. C'est comme l'acceptation de soi-même, s'accepter tel que je suis. Je ne dois pas rester prisonnier de ce sentiment de culpabilité parce que je ne suis pas libre. Et j'empêche le Seigneur d'agir, de me permettre de passer autre chose, de jouir pleinement de ma vie et des plans qu'il a pour moi. Je vous laisse juste une lecture à faire, parce que là, le temps est un peu avancé. C'est Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35, c'est sur le serviteur impitoyable. C'est une très bonne histoire qui vient illustrer ce que nous venons de partager ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons bénis également.